Histoire de la Réformation du XVIe siècle, livre 8, chapitre 11. Zwingli contre les préceptes d'homme, fermentation pendant le carême, la vérité croît dans les combats, les députés de l'évêque, accusation devant le clergé et le conseil, appel au grand conseil, le coadjuteur et Zwingli, réponse de Zwingli, arrêté du grand conseil, situation. Froissé dans ses sentiments comme citoyen, Zwingli se consacra avec un nouveau zèle à annoncer l'Évangile. Il prêchait avec une énergie croissante. « Je ne cesserai, dit-il, de travailler à restaurer l'antique unité de l'Église de Christ. » Il commença l'année 1522 en montrant quelle différence il y a entre les préceptes de l'Évangile et les préceptes des hommes. Le temps du carême étant arrivé, il éleva la voix avec plus de force encore. Après avoir posé les fondements de l'édifice nouveau, il voulait déblayer les décombres de l'ancien. « Depuis 4 ans, dit-il à la foule assemblée dans la cathédrale, vous avez reçu avec une soif ardente la saine doctrine de l'Évangile. Embrasée des flammes de la charité, rassasiée des douceurs de la manne céleste, il vous est impossible de trouver encore quelque goût aux tristes aliments des traditions humaines. » Puis, attaquant l'abstinence obligée des viandes en certains temps, « Il en est, s'écria-t-il avec sa rude éloquence, qui prétendent que manger de la viande est un mal et même un grand péché, bien que Dieu ne l'ait jamais défendu, et qui ne regarde pas comme un crime de vendre à l'étranger de la chair humaine et de la traîner à la boucherie. » À ces mots hardis, les amis des capitulations militaires qui se trouvaient dans l'assemblée tressaillirent d'indignation et de colère et jurèrent de ne pas l'oublier. Tout en prêchant avec tant de force, Zwingli disait encore la messe. Il observait les usages établis par l'Église et s'abstenait même de viande au jour fixé. Il était persuadé qu'il fallait d'abord éclairer le peuple, mais certains esprits turbulents n'agissaient pas avec autant de sagesse. Roubli, réfugié à Zurich, se laissait aller aux écarts d'un zèle exagéré. L'ancien curé de Saint-Alban, un capitaine bernois et un membre du Grand Conseil, Conrad Hubert, se réunissaient souvent chez ce dernier pour manger de la viande le vendredi et le samedi, et ils en tiraient gloire. La question du maigre préoccupait tous les esprits. Un lucernois étant venu à Zurich, « Vous autres, chers confédérés de Zurich, dit-il à l'un de ses amis de cette ville, vous faites mal de manger de la viande pendant le carême. » Le Zurichois. « Vous prenez pourtant aussi la liberté, messieurs de Lucerne, d'en manger dans les jours défendus. » Le Lucernois. « Nous l'avons acheté du pape. » Le Zurichois. « Et nous, du boucher. Si c'est d'argent qu'il s'agit en cette affaire, l'un vaut bien l'autre, assurément. » Le conseil, ayant reçu plainte contre les transgresseurs des ordonnances ecclésiastiques, demanda l'avis des curés. Zwingli répondit que l'action de manger de la viande tous les jours n'était pas blâmable en elle-même, mais que l'on devait s'abstenir de le faire tant que l'autorité compétente n'aurait rien décidé à cet égard. Les autres membres du clergé adhérèrent à cet avis. Les ennemis de la vérité profitèrent de cette circonstance heureuse. L'influence leur échappait. La victoire demeurait à Zwingli. Il fallait se hâter de frapper un grand coup. Ils assaillirent l'évêque de Constance. « Zwingli, s'écriait-il, est le destructeur du troupeau et non son pasteur. » L'ambitieux Faber, l'ancien ami de Zwingli, était revenu plein de zèle pour la papauté d'un voyage qu'il venait de faire à Rome. C'est des inspirations de cette ville superbe que devaient sortir les premiers troupes de la Suisse. Il fallait une lutte décidée entre la vérité évangélique et les représentants du pontife romain. C'est dans les attaques qu'on lui livre que la vérité prend surtout ses forces. Ce fut déjà à l'ombre de l'opposition et de la persécution que le christianisme naissant acquit la puissance qui renversa tous ses ennemis. Dieu voulut aussi conduire sa vérité à l'époque de Renaissance dont nous faisons l'histoire dans ces sentiers difficiles. Les sacrificateurs se levèrent alors, comme au temps des apôtres, contre la doctrine nouvelle. sans ses attaques, elle fût peut-être demeurée obscurément cachée dans quelques âmes fidèles. Mais Dieu veillait pour la manifester au monde. L'opposition lui ouvrit de nouvelles portes, la lança dans une carrière nouvelle et fixa sur elle les yeux de la nation. Ce fut comme le coup du vent dispersant au loin des semences qui, sans cela, peut-être fussent restées oisives dans le lieu qui les recélait. L'arbre qui devait abriter les populations helvétiques était bien planté au fond de leur vallée, mais il fallait des orages pour affermir ses racines et pour développer ses rameaux. Les partisans de la papauté, voyant le feu qui couvait dans Zurich, se précipitèrent dessus pour l'étouffer, et ils ne firent qu'étendre au loin ses flammes. Le 7 avril 1522, après-midi, on vit entrer dans les murs de Zurich trois ecclésiastiques députés de l'évêque de Constance. Deux d'entre eux avaient un air grave et irrité. Le troisième paraissait plus doux. C'était le coadjuteur de l'évêque, Melchior Batli, le docteur Brindy et Jean Vaner, prédicateur de la cathédrale, homme évangélique et qui garda le silence pendant toute l'affaire. Il était déjà nuit quand Luthi, accourant chez Zwingli, lui dit « Des officiers de l'évêque sont arrivés. Un grand coup se prépare. Tous les partisans des anciennes coutumes s'agitent. Un notaire convoque tous les prêtres pour demain matin, de bonne heure, dans la salle du chapitre. » L'assemblée du clergé s'étant en effet réunie le lendemain, le coadjuteur se leva, prononça un discours que ses adversaires trouvèrent plein de violence et d'orgueil. Il affecta cependant de ne pas prononcer le nom de Zwingli. Quelques prêtres récemment gagnés à l'évangile et faibles encore furent anéantis. Leur pâleur, leur silence, leurs soupirs montraient qu'ils avaient perdu tout courage. Zwingli se leva et prononça un discours qui ferma la bouche aux adversaires. À Zurich, comme dans les autres cantons, les plus violents ennemis de la nouvelle doctrine se trouvaient dans le petit conseil. La députation, battue devant le clergé, porta ses plaintes devant les magistrats. Zwingli était absent. Elle n'avait donc pas de réplique à redouter. L'effet parut décisif. On allait condamner l'Évangile et son défenseur sans l'entendre. Jamais la Réformation ne courut en Suisse de plus grand danger. Elle allait être étouffée dans son berceau. Les conseillers, amis de Zwingli, invoquèrent alors la juridiction du Grand Conseil. C'était la seule planche de salut qu'il leur resta encore. Et Dieu s'en servit pour sauver la cause de l'Évangile. Les 200 furent convoqués. Les partisans de la papauté firent tout pour que Zwingli n'y fût pas admis. Zwingli fit tout pour y paraître. Il frappait à toutes les portes et remuait, dit-il, toutes les pierres, mais en vain. « Cela est impossible, » disaient les bourgmestres. « Le conseil a arrêté le contraire. » Alors, rapporte Zwingli, « je demeurais tranquille et je portais la chose avec de grands soupirs devant celui qui entend les gémissements des captifs, le suppliant de défendre lui-même son évangile. L'attente pleine de patience et de soumission des serviteurs de Dieu ne les a jamais trompés. » Le 9 avril, les 200 s'assemblèrent. « Nous voulons avoir ici nos pasteurs, » dirent aussitôt les amis de la Réformation qui en étaient membres. Le petit conseil résistait, mais le grand conseil arrêta que les pasteurs seraient présents à l'accusation et répondraient même s'ils le jugeaient convenable. Les députés de Constance furent introduits, puis les trois curés de Zurich, Zwingli, Engelhard et le vieux Röschli. Après que les adversaires ainsi en présence les uns des autres se furent quelque temps mesurés de l'œil, le coadjuteur se leva. « Si son cœur et sa tête eussent été à l'égal de sa voix, » dit Zwingli, « il eût surpassé pour la douceur Apollon et Orphée et pour la force les Gracques et Démosthènes. » La constitution civile, dit le champion de la papauté, et la foi chrétienne elle-même sont menacées. Il a paru des hommes qui enseignent des doctrines nouvelles, choquantes, séditieuses. Puis après bien des paroles, fixant ses regards sur le Sénat assemblé devant lui, « Demeurez avec l'Église, dit-il, demeurez dans l'Église, hors d'elle, nul ne peut être sauvé. Les cérémonies seules peuvent amener les simples à la connaissance du salut, et les pasteurs des troupeaux n'ont autre chose à faire qu'à en expliquer au peuple la signification. » Aussitôt que le coadjuteur eut achevé son discours, il se leva, et déjà il s'apprêtait avec les siens à quitter la salle du conseil, quand Zwingli lui dit vivement « Monsieur le coadjuteur, et vous qui l'accompagnez, demeurez, je vous prie, jusqu'à ce que je me sois justifié. » Le coadjuteur « Nous ne sommes chargés de disputer avec qui que ce soit. » Zwingli « Je veux non disputer, mais vous exposer sans crainte ce que j'ai enseigné jusqu'à cette heure. » Le bourgmestre rouste au député de Constance. « Je vous en prie, écoutez ce que le curé veut répondre. » Le coadjuteur. « Je sais trop à quel homme j'aurai affaire. Ulrich Zwingli est trop violent pour qu'on discute avec lui. » Zwingli. « Depuis quand attaque-t-on un innocent avec tant de force et refuse-t-on ensuite de l'entendre ? Au nom de la foi qui nous est commune, au nom du baptême que nous avons reçu l'un et l'autre, au nom du Christ, l'auteur du salut et de la vie, écoutez-moi. Si vous ne le pouvez comme député, faites-le du moins comme chrétien. » Après avoir fait une décharge en l'air, Rome quittait à pas précipités le champ de bataille. Le réformateur ne demandait qu'à parler et les agents de la papauté ne pensaient qu'à fuir. Une cause ainsi plaidée était déjà gagnée d'un côté et perdue de l'autre. Les 200 ne pouvaient plus contenir leur indignation. Un murmure éclatait dans l'assemblée. Le bourgmestre pressa de nouveau les députés. Honteux, interdits, ils retournèrent à leur place. Alors Zwingli dit « Monsieur le coadjuteur parle de doctrines séditieuses et qui renversent les lois civiles. Qu'il sache que Zurich est plus tranquille et plus soumise aux lois qu'aucune autre ville des Helvétiens, ce que tous les bons citoyens attribuent à l'Évangile. Le christianisme n'est-il pas le plus puissant boulevard pour garder la justice au milieu du peuple ? Que font toutes les cérémonies ? Que farder honteusement le visage de Christ et des chrétiens ? Oui, il est une autre voie que ces vaines pratiques pour amener le simple peuple à la connaissance de la vérité. C'est celle que Christ et les apôtres ont suivie, c'est l'Évangile même. Ne craignons pas que le peuple ne le comprenne. Quiconque croit, comprend. Le peuple peut croire, donc il peut comprendre. C'est ici une œuvre de l'Esprit divin et non de la raison humaine. Au reste, que celui qui n'a pas assez de 40 jours jeûne, s'il le veut, toute l'année, peu m'importe. Tout ce que je demande, c'est qu'on ne contraigne personne à le faire et que pour une minime observance, on n'accuse pas les Uquirois de se séparer de la communion des chrétiens. « Je n'ai pas dit cela !» s'écria le coadjuteur. « Non, dit son collègue, le docteur Brindy, il ne l'a point dit. » Mais tout le Sénat confirma l'assertion de Zwingli. « Excellent citoyen, continua celui-ci, que cette accusation ne vous émeuve pas. Le fondement de l'Église, c'est ce rocher, ce Christ qui a donné à Pierre son nom parce qu'il le confessait avec fidélité. En toute nation, quiconque croit du cœur au Seigneur Jésus est sauvé. C'est hors de cette Église-là que personne ne peut avoir la vie. Expliquer l'Évangile et le suivre, voilà pour nous, ministres de Christ, tout notre devoir. Que ceux qui vivent de cérémonies se chargent de les expliquer. » C'était mettre le doigt sur la plaie. Le coadjuteur rougit et se tut. Les 200 se séparèrent. Le même jour, ils arrêtèrent que le pape et les cardinaux seraient invités à expliquer le point controversé et qu'en attendant, on s'abstiendrait de viande pendant le carême. C'était laisser les choses sur le même pied et répondre à l'évêque en cherchant à gagner du temps. Ce combat avait avancé l'œuvre de la Réformation. Les champions de Rome et ceux de la doctrine nouvelle avaient été en présence comme sous les yeux de tout le peuple. Et l'avantage n'était pas demeuré au pape. C'était le premier engagement d'une campagne qui devait être longue, rude et passer par bien des alternatives de deuil et de joie. Mais une première victoire, à l'ouverture d'une lutte, donne du courage à toute une armée et frappe d'épouvante l'ennemi. La Réformation s'était emparée d'un terrain qu'elle ne devait plus perdre. Si le Conseil se croyait encore obligé à quelques ménagements, le peuple proclamait hautement la défaite de Rome. Jamais, disait-il, dans l'exaltation du moment, ils ne pourront réunir de nouveau leurs troupes battues et dispersées. « Vous avez, disait-on à Zwingli, attaqué avec l'esprit de saint Paul ses faux apôtres et leur Ananias ses parois blanchies, les satellites de l'Antéchrist ne peuvent plus que grincer les dents contre vous. » Des voix qui venaient du fond de l'Allemagne le proclamaient avec joie la gloire de la théologie renaissante. Mais en même temps, les ennemis de l'Évangile rassemblaient leurs forces. Il n'y avait pas de temps à perdre si on voulait l'atteindre, car ils devaient être bientôt hors de la portée de leurs coups. Hoffmann remit au chapitre une longue accusation contre le réformateur. « Quand même, disait-il, le curé pourrait prouver par témoin quel péché, quel désordre ont été commis par des ecclésiastiques dans tel couvent, dans telle rue, dans tel cabaret, il ne devrait cependant nommer personne. Pourquoi donne-t-il à comprendre ? Il est vrai que je ne l'ai presque jamais entendu moi-même, que lui seul puise sa doctrine à la source même, et que les autres ne la cherchent que dans des égouts et dans des bourbiers. N'est-il pas impossible, vu la diversité des esprits, que tous les prédicateurs prêchent de même ? Zwingli se justifia en plein chapitre, dissipant les accusations de son adversaire comme un taureau qui de ses cornes disperse de la paille dans les airs. L'affaire qui avait paru si grave se termina par des rires aux dépens du chanoine. Mais Zwingli ne s'arrêta pas là. Le 16 avril, il publia un écrit sur le libre usage des aliments. Livre 8, chapitre 12. Attaque d'Hoffmann, deuil et joie en Allemagne, mandement de l'évêque, Archétélès, l'évêque s'adresse à la diète, défense d'attaquer les moines, déclaration de Zwingli, les nonnes d'Ettenbach, adresse de Zwingli à Schwitz. Cette fermeté inébranlable du réformateur réjouissait les amis de la vérité et particulièrement les chrétiens évangéliques de l'Allemagne, si longtemps privés par la captivité de la Wartburg du puissant apôtre qui avait le premier levé la tête au sein de l'Église. Déjà des pasteurs et des fidèles fugitifs, à la suite du décret impitoyable que la papauté avait obtenu à Worms de Charles Quint, trouvaient un asile dans Zurich. « Oh, comme je me réjouis, écrivait à Zwingli, Ness, ce professeur de Francfort que Luther visita en se rendant à Worms, d'apprendre avec quelle autorité vous annoncez Jésus-Christ. Affermissez par vos paroles ce que la cruauté des mauvais évêques oblige à fuir loin de nos églises en deuil. » Mais ce n'était pas seulement en Allemagne que les adversaires tramaient des complots funestes contre les amis de la Réformation. Il ne se passait pas d'heure où on ne s'entretint à Zurich des moyens de se débarrasser de Zwingli. Un jour, il reçut une lettre anonyme qu'il communiqua aussitôt à ses deux vicaires. « De tous côtés, des embûches vous entourent, lui disait-on. Un poison mortel est prêt pour vous ôter la vie. Ne mangez que dans votre maison et que du pain fait par votre propre cuisinière. Les murs de Zurich renferment des hommes qui machinent votre ruine. L'oracle qui me l'a révélé est plus véritable que celui de Delphes. Je suis des vôtres, vous me connaîtrez plus tard. » Le lendemain du jour où Zwingli reçut cette mystérieuse épître, au moment où Staeli allait entrer dans l'église de l'eau, un chapelain l'arrêta et lui dit « Quittez en toute hâte la maison de Zwingli, une catastrophe se prépare. » Des séides désespérant de voir la réformation arrêtée par la parole s'armaient du poignard. Lorsque de puissantes révolutions s'accomplissent dans la société, des assassins jaillissent ordinairement du fond impur des populations émues. Dieu garda Zwingli. Tandis que les meurtriers voyaient échouer leur trame, les organes légitimes de la papauté s'agitaient de nouveau. L'évêque et ses conseillers résolurent de recommencer la guerre. De toutes parts, la nouvelle en parvint à Zwingli. Le réformateur, s'appuyant sur la parole de Dieu, dit avec une noble fierté « Je les crains comme un rivage escarpé craint les ondes menaçantes. Sun toteo, avec Dieu, ajouta-t-il. Le 2 mai, l'évêque de Constance publia un mandement où, sans nommer ni Zurich ni Zwingli, il se plaignait de ce que des gens artificieux renouvelaient des doctrines condamnées et de ce que savants et ignorants discutaient en tout lieu sur les plus redoutables mystères. Le prédicateur de la cathédrale de Constance, Jean Vaner, fut le premier attaqué. « J'aime mieux, dit-il, être chrétien avec la haine de plusieurs que d'abandonner Christ pour l'amitié du monde. » Mais c'était à Zurich qu'il fallait écraser l'hérésie naissante. Faber et l'évêque savaient que Zwingli avait plusieurs ennemis parmi les chanoines. On voulut se servir de cette haine. Vers la fin de mai, arriva à Zurich une lettre de l'évêque adressée au prévôt et à son chapitre. « Fils de l'Église, disait le prélat, que ceux qui veulent périr périssent, mais que personne ne vous enlève à l'église. En même temps, l'évêque sollicitait les chanoines d'empêcher que les coupables doctrines qui enfantaient des sectes pernicieuses ne fussent prêchées auprès d'eux et discutées, soit en particulier, soit en public. Cette lettre ayant été lue dans le chapitre, tous les yeux se fixèrent sur Zwingli. Celui-ci, comprenant ce que ce regard signifiait, « Vous pensez, dit-il, je le vois, que c'est moi que cette lettre concerne. Veuillez me la remettre, et Dieu aidant, j'y répondrai. » Zwingli répondit dans son « archétélès », mot qui signifie « commencement et fin », car, dit-il, « j'espère que cette première réponse sera aussi la dernière. » Il y parlait d'une manière très respectueuse de l'évêque et rejetait sur quelques intrigants toutes les attaques de ses ennemis. « Qu'ai-je donc fait ? Disait-il. « J'ai appelé tous les hommes à la connaissance de leur propre plaie. Je me suis efforcé de les amener au seul vrai Dieu et à Jésus-Christ, son Fils. Je me suis servi pour cela non d'exhortations captieuses, mais de paroles simples et vraies, telles que les fils de la Suisse peuvent les comprendre. » Puis, passant de la défense à l'attaque, « Jules César, ajoutait-il avec finesse, se voyant frappé à mort, s'efforça de rapprocher les bords de son vêtement afin de tomber avec décence. La chute de vos cérémonies est proche. Faites du moins qu'elle tombe convenablement et que la lumière soit partout promptement substituée aux ténèbres. » Ce fut là tout le succès qu'obtint la lettre de l'évêque au chapitre de Zurich. Puisque toutes les remontrances amicales étaient vaines, il fallait frapper des coups plus décisifs. Faber et Landenberg portent d'ailleurs leur regard. C'est vers la Diète, vers le Conseil de la Nation helvétique, qu'ils se tournent enfin. Des députés de l'évêque y arrivent. Ils exposent que leur maître a défendu par un mandement à tous les prêtres de son diocèse d'innover dans les choses de doctrine. Que son autorité étant méconnue, il invoque le secours des chefs de la Confédération pour l'aider à maintenir dans l'obéissance les rebelles et défendre l'antique et véritable foi. Les ennemis de la Réformation dominaient dans cette première assemblée de la nation. Déjà, peu auparavant, elle avait rendu un arrêté qui interdisait la prédication à tous les prêtres dont les discours portaient, disait-on, la discorde parmi le peuple. Cet arrêté de la Diète, qui pour la première fois s'occupait de la Réformation, n'avait pas eu de suite, mais maintenant, voulant sévir, cette assemblée cita devant elle Urbain Weiss, pasteur de Philippach, près de Bade, que le bruit public accusait de prêcher la nouvelle foi et de rejeter l'ancienne. Weiss fut relâché pour quelque temps, sur l'intercession de plusieurs et sous la caution de 100 florins que ses paroissiens présentèrent. Mais la Diète avait pris parti. Elle venait d'en faire preuve. Partout, le courage revenait aux moines et aux prêtres. À Zurich, déjà, après le premier arrêté de cette assemblée, on les avait vus se montrer plus impérieux. Plusieurs membres du conseil avaient l'habitude de visiter matin et soir les trois couvents et même d'y prendre leur repas. Les moines endoctrinaient ces bénévoles commensaux et les sollicitaient de faire rendre au gouvernement un arrêté en leur faveur. « Si Zwingli ne veut pas se taire, disait-il, nous créerons encore plus fort. » La Diète s'était rangée du côté des oppresseurs. Le conseil de Zurich ne savait que faire. Le 7 juin, il rendit une ordonnance par laquelle il défendit de prêcher contre les moines. Mais à peine l'arrêté était-il rendu, qu'il se fit dans la chambre du conseil un bruit soudain, dit la chronique de Bullinger, en sorte que chacun se regarda. La paix ne se rétablit point. Le combat qui se livrait du haut de la chaire s'échauffait toujours plus. Le conseil nomma une députation qui fit comparaître dans la demeure du prévôt les pasteurs de Zurich et les lecteurs et prédicateurs des couvents. Après une vive discussion, le bourgmestre enjoignit aux deux parties de ne rien prêcher qui pût troubler la concorde. « Je ne puis accepter cette injonction, » dit Zwingli. « Je veux prêcher l'évangile librement et sans condition aucune, conformément à l'arrêté qui a été rendu précédemment. Je suis évêque et pasteur de Zurich. C'est à moi que le soin des âmes a été confié. » J'ai prêté serment, et non les moines. Ce sont eux qui doivent céder, et non pas moi. S'ils prêchent des mensonges, je les contredirai, et jusque dans la chair de leur propre couvent. Si moi-même je prêche une doctrine contraire au Saint-Évangile, alors je demande à être repris, non seulement par le chapitre, mais encore par quelques citoyens que ce soit, et de plus à être puni par le conseil. Nous, dirent les moines, nous demandons qu'il nous soit permis de prêcher les doctrines de Saint-Thomas. La commission du conseil ayant délibéré, ordonna qu'on laissât là Thomas, Scott et les autres docteurs et qu'on ne prêchât que le Saint-Évangile. Ainsi, la vérité avait encore une fois remporté la victoire. Mais la colère des partisans de la papauté s'en accrut. Les chanoines ultramontains ne pouvaient cacher leur colère. Ils regardaient Zwingli dans le chapitre avec impudence et semblaient de leurs yeux demander sa vie. Ces menaces n'arrêtaient pas Zwingli. Il y avait un lieu dans Zurich où, grâce aux dominicains, la lumière n'avait point encore pénétré. C'était le couvent des femmes d'Ettenbach, les filles des premières familles de Zurich qui prenaient le voile. Il parut injuste que ces pauvres personnes, renfermées dans les murs de leur monastère, fussent les seules à ne point entendre la parole de Dieu. Le grand conseil ordonna à Zwingli de s'y rendre. Le réformateur monta dans cette chaire, livrée jusqu'alors aux dominicains, et y prêcha sur la clarté et la certitude de la parole de Dieu. Il publia plus tard ce discours remarquable qui ne demeura pas sans fruit et qui irrita encore plus les moines. Une circonstance vint étendre cette haine et la porter dans beaucoup d'autres cœurs. Les Suisses, ayant à leur tête Stein et Wickenried, venaient d'essuyer à la bicoque une sanglante défaite. Ils s'étaient élancés avec impétuosité sur l'ennemi, mais l'artillerie de Pecker et les lansquenets de ce Frandberg que Luther avait rencontré à la porte de la salle de Worms avaient renversé échefs et drapeaux, et l'on avait vu tomber et disparaître tout à la fois des compagnies entières. Wickenried, des Stein, des Mullinen, des Dieschbach, des Bonstetten, des Tschudi, des Pfeiffer étaient restés sur le champ de bataille. Schwitz, surtout, avait été moissonné. Les débris sanglants de cet affreux combat étaient rentrés en Suisse, portant partout le deuil sur leurs pas. Un cri de douleur avait retenti des Alpes au Jura et du Rhône jusqu'au Rhin. Mais personne n'avait ressenti une peine aussi vive que Zwingli. Il écrivit aussitôt une adresse à Schwitz pour détourner les citoyens de ce canton du service étranger. « Vos ancêtres, leur dit-il avec toute la chaleur d'un cœur suisse, ont combattu leurs ennemis pour défendre leur liberté, mais ils n'ont jamais mis des chrétiens à mort pour gagner de l'argent. Ces guerres étrangères attirent sur notre patrie d'innombrables calamités. Les fléaux de Dieu châtient nos peuples confédérés et la liberté helvétique est près de se perdre entre les caresses intéressées et les haines mortelles de princes étrangers. » Zwingli donnait la main à Nicolas de Flux et renouvelait les instances de cet homme de paix. Cette exhortation ayant été présentée à l'assemblée du peuple de Schwitz et produisit un tel effet qu'il fut arrêté de s'abstenir provisoirement pendant 25 ans de toute capitulation. Mais bientôt le parti français fit révoquer cette résolution généreuse et Schwitz fut dès lors le canton le plus opposé à Zwingli et à son œuvre. Les disgrâces même que les partisans des capitulations étrangères attiraient sur leur pays ne faisaient qu'accroître la haine de ces hommes contre le ministre courageux qui s'efforçait d'éloigner de sa patrie tant d'infortune et de honte. Il se forma de plus en plus dans la Confédération un parti violent contre Zurich et contre Zwingli. Les coutumes de l'Église et les pratiques des embaucheurs, ensemble attaqués, s'appuyaient mutuellement pour résister au souffle impétueux de la réforme qui menaçait de les abattre. En même temps, les ennemis se multiplièrent au dehors. Ce ne fut plus seulement le pape, mais ce furent encore les autres princes étrangers qui jurèrent une haine impitoyable à la Réformation. Ne prétendait-elle pas leur enlever ces hallebardes helvétiques auxquelles leur ambition et leur orgueil avaient dû tant de triomphes? Mais il resta à la cause de l'Évangile, Dieu et les plus excellents du peuple. C'était assez. D'ailleurs, de diverses contrées, la providence divine a mené à son aide des hommes poursuivis pour leur foi.